Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Envoie ton Esprit et toutes choses seront créées, et tu renouvelleras la face de la terre. Prions. Ô Dieu, illuminez les cœurs de vos fidèles avec la lumière de l'Esprit Saint. Accordez-nous de penser ce qui est droit selon ce même esprit et de jouir toujours de sa consolation. Par Jésus-Christ notre Seigneur.
Amen.
Jésus, doux et humble de cœur. Ô Marie, conçue sans péché. Alors, Dieu s'a béni. Alors, est-ce qu'il y a des nouvelles têtes? Est-ce que vous souhaitez que je vous parle quand il y a besoin, nécessité de redonner le charisme de la garde d'honneur? Ou est-ce que tout ça, tout le monde... Oui, je crois, hein, oui. Alors, c'est bien. Alors, aujourd'hui, je vous propose, pour la dernière rencontre de l'année, de voir avec vous, et tout ça à travers cet enseignement, une garde d'honneur me posait la question de comment connaître la volonté de Dieu. Hein, c'est pas toujours simple. Hein. Et puis à la fois, c'est simple. Mais c'est nous qui avons l'art de compliquer les choses. Donc aujourd'hui, je me propose avec les écrits, hein, là, je m'appuie beaucoup sur notre saint fondateur, parce qu'il a beaucoup dit sur la volonté de Dieu. Pour discerner, qu'est-ce que je dois faire et surtout qu'est-ce qu'il me demande de faire. Et puis si, j'espère en tout cas avoir le temps de voir sur la fin comment le faire. Voilà. Hein. Et la dernière fois je vous disais que Dieu nous parle. Et il veut dialoguer avec nous, par exemple, à l'oraison. Juste, j'ouvre une parenthèse, j'espère l'oraison, vous avez réussi à mettre une petite demi-heure d'oraison tous les jours en place dans votre vie de prière. Et donc, ce Dieu nous parle, il nous parle à l'oraison, mais pas uniquement à l'oraison. Il nous parle de deux façons. La volonté de Dieu, notre saint fondateur l'appelle la volonté de Dieu signifiée et la volonté du bon plaisir. La volonté signifiée, elle est distinguée par quatre parties qui sont les commandements de Dieu et de l'Église, les conseils, les inspirations, les règles et constitutions quand il s'agit de religieux. Donc pour une religieuse qui se demanderait qu'est-ce qu'elle a à faire dans sa vie, hein, eh bien, elle n'a qu'à ouvrir son livre de règles, elle sait ce qu'elle a à faire. Si elle désobéit, donc ça on va le voir par la suite, si elle ne pratique pas sa règle, eh bien, elle commet un péché, quoi. Hein. Le commandement, c'est on doit obéir. Donc, au commandement de Dieu et de l'Église, il faut nécessairement que chacun obéisse, parce que c'est la volonté de Dieu absolue et qui veut qu'en cela nous obéissions si nous voulons être sauvés. Donc, je vais quand même rappeler les commandements de Dieu, donc c'est les 10, c'est le décalogue, hein, c'est la loi de Dieu donnée à Moïse sur le Sinaï. Donc, tu aimeras Dieu par-dessus tout, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain, tu sanctifieras les fêtes, tu honoreras ton père et ta mère, tu ne tueras pas. Tu ne commettras pas d'acte impur, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages ni ne mentiras, tu ne te laisseras pas aller à des pensées ou des désirs impurs, vous ne devez pas convoiter la propriété d'un autre homme. Et il manque peut-être des chaises, non? Si, non, ça va aller? Ouais. Et voilà. Après, on a donc les conseils. Il veut bien que nous les observions, mais non pas d'une volonté absolue, ainsi seulement par manière de désir. C'est pourquoi nous ne perdons pas la charité et ne nous séparons pas de Dieu, contrairement au commandement, pour n'avoir pas le courage d'entreprendre l'obéissance des conseils. Même, nous ne devons pas vouloir entreprendre la pratique de tous, ainsi seulement de ceux qui sont plus conformes à notre vocation. Car il y en a qui sont tellement opposés les uns aux autres qu'il serait impossible tout à fait d'embrasser la pratique de l'un sans ôter le moyen de pratiquer l'autre. C'est un conseil de quitter tout pour suivre notre Seigneur dénué de toute chose. C'est un conseil de prêter et de donner l'aumône. Dites-moi, celui qui a quitté tout d'un coup, ce qu'il avait, de quoi peut-il faire l'aumône puisqu'il n'a rien ? Il faut donc poursuivre les conseils que Dieu veut, que nous suivions et ne pas croire qu'il les ait tous donnés afin que nous les embrassions tous. On suit les conseils en fonction de sa vocation. Alors, dans son traité de l'amour de Dieu, notre saint fondateur apporte un petit complément d'information sur... Il fait une comparaison entre le commandement et le conseil, qui est, comme c'est bien faire notre saint fondateur, c'est bien... ça tourne bien, donc je vais vous le partager. Le commandement implique, chez celui qui l'ordonne, une forte volonté d'être obéi. C'est sûr que Dieu veut être obéi dans ses commandements. Le conseil, en revanche, n'imprime qu'un souhait. Le commandement nous oblige, le conseil nous invite. La transgression du commandement entraîne une culpabilité. La non-observance du conseil rend seulement moins louable celui qui ne le suit pas. Celui qui viole les commandements mérite d'être damné. Celui qui néglige les conseils mérite seulement d'être moins glorifié. Il y a une différence entre commander et recommander. Quand on commande, on use de son autorité pour obliger. Quand on recommande, on use de son amitié pour inviter et persuader. Le commandement impose une chose nécessaire, le conseil invite à une chose utile. Sans la nuance, hein, c'est pas mettre sur le même plan. Au commandement correspond l'obéissance, au conseil la confiance. On suit le conseil afin de plaire. On observe le commandement afin de ne pas déplaire. C'est pourquoi l'amour de complaisance par lequel nous nous obligeons à plaire au bien-aimé nous incite à suivre ses conseils. Quant à l'amour de bienveillance par lequel nous désirons que toute volonté et toute affection lui soient soumises, non seulement il nous faut vouloir ce que Dieu ordonne, mais aussi ce qu'il conseille et à quoi il exhorte. Un enfant fidèle, parce qu'il a de l'amour et du respect pour son père, vivra non seulement selon les commandements que celui-ci lui impose, mais aussi selon les préférences et les désirs qu'il lui manifeste. Si ton père ou ta mère sont dans une vraie nécessité de recevoir tes soins, ce n'est pas le moment de pratiquer le conseil d'entrer au monastère. Car la charité t'ordonne d'observer d'abord le commandement d'honorer, de servir, d'aider et de secourir ton père ou ta mère. Voilà. Un petit exemple hein, pour camper la différence entre le commandement, donc d'aller, par exemple, d'honorer Dieu. Hein, tu aimeras Dieu par-dessus tout, donc d'honorer notre Seigneur en allant à la messe le dimanche, par exemple, eh bien, est un commandement. Autant le conseil, il vous prend subitement la vocation, eh bien, voilà, selon ma situation, est-ce que je peux, aller par le passé, hein, combien se sont sacrifiées les générations du passé pour rester, justement, pour entourer ses parents âgés. Beaucoup se sont renoncés à rentrer dans la vocation religieuse pour rester avec les parents et à l'époque on ne plaçait pas facilement nos anciens, on va dire, dans des EHPAD ou dans des maisons de retraite. Hein. Voilà. Après, nous avons dit que de plus que Dieu nous signifie sa volonté par ses inspirations. Il est vrai. Mais pourtant, il ne veut pas que nous discernions de nous-mêmes si ce qui nous est inspiré est sa volonté. Ni moins qu'à tort et à travers, nous suivions ses inspirations. Il ne veut pas aussi que nous attendions que lui-même nous manifeste ses volontés ou qu'il nous envoie les anges pour les nous enseigner. Mais sa volonté est que nous recourions, est-ce chose douteuse et d'importance, à ceux qu'il a établis sur nous pour nous conduire, et que nous demeurions totalement soumis à leurs conseils et à leurs opinions en ce qui regarde la perfection de nos âmes. Voilà donc comment Dieu nous manifeste sa volonté, que nous appelons volonté signifiée. Et dans son traité de l'amour de Dieu, je vais aller plus loin pour expliciter ses inspirations, parce que tout le monde a des inspirations. Hein. Si vous avez mis en place l'oraison, Combien de fois on arrive avec une question ou un problème dans la tête, et puis au cours de l'oraison, clac, il y a une lumière qui se fait. Hein. Alors, le saint fondateur parle d'un échauffement, enfin je veux dire, voilà, d'une visite du Seigneur, mais qui me dit que c'est pas moi qui me suscite l'inspiration parce que ça m'arrange, ou vraiment c'est Dieu qui me parle à travers, voilà, fais ceci, fais cela. Alors, les rayons du soleil éclairent en même temps qu'ils échauffent et échauffent en même temps qu'ils éclairent. L'inspiration est comme un rayon venu du ciel qui pénètre nos cœurs, les éclaire et les échauffe. Elle nous montre le bien et nous incite à le poursuivre. Sur la terre, toute vie s'engourdit sous le froid de l'hiver, mais que vienne le printemps et la chaleur, la vie renaît. Les animaux des prés courent plus vite, les oiseaux volent plus haut et chantent plus gaiement. Les feuilles poussent et les fleurs apparaissent. Sans l'inspiration, nos âmes ressembleraient à la nature en hiver, paresseuses, percluses, inutiles. Mais que viennent les rayons de la divine inspiration, nous sentons alors en nous la chaleur et la lumière de la vie. L'inspiration éclaire notre intelligence, réveille et meut notre volonté. Lui donne la force de vouloir et d'accomplir tout ce qui regarde notre salut éternel. Par exemple, voilà, vous avez l'inspiration d'aller rendre visite à une malade qui est vraiment gravement malade et qui est difficile d'approche. Si ça vient vraiment de Dieu, déjà vous avez la lumière, et votre volonté, elle est comme réchauffée, vous vous sentez à l'intérieur poussée à le faire. Les moyens dont Dieu se sert pour nous inspirer sont en nombre infini. Saint Antoine, Saint François, Saint Anselme et tant d'autres recevaient des inspirations par l'entremise des créatures. Voilà. Toutefois, le moyen ordinaire, c'est l'audition d'une prédication. C'est souvent au cours d'une lecture de la parole de Dieu, d'où l'importance de vraiment creuser, d'être intime avec la parole de Dieu. Voilà, il nous parle à travers la parole de Dieu et clac, on a une lumière sur, par exemple, un défaut qu'on voit en nous. Comment le corriger? Tac! Voilà, on a une lumière. Mais pour ceux qui n'en seraient pas touchés, Dieu peut encore se servir d'épreuves et de tribulations. Allez-y, c'est pas grave. D'épreuves, voilà. L'affliction donnera l'intelligence à Louis. Hein. C'est un moyen. Souvent, Dieu nous fragilise, hein, fragilise notre constitution, on va dire, pour nous parler, parce que des fois on est tellement campé sur nos propres forces, notre propre volonté, qu'il a beau essayer de nous parler ou nous envoyer une inspiration, ça nous rejoint pas, parce qu'on est tellement dans notre réseau qu'il a aucun moyen de se faire entendre. Donc souvent, il nous fragilise par l'épreuve de la maladie ou l'échec professionnel. Et c'est comme ça, des fois, qu'on peut avoir l'inspiration. Moi, pour la petite histoire, je vais vous donner en exemple. Donc, j'étais une passionnée d'équitation avant de rentrer. J'envisageais faire ma carrière professionnelle dans l'équitation. Et je me rappelle que je devais présenter un cheval en un concours de présentation. Et donc voilà, je monte et puis mystérieusement, le Seigneur a permis que le cheval, je ne sois incapable de le conduire. Avant, j'y arrivais. C'est comme ça. Je me suis fait donc promener sur le parcours. Ça s'est vu que j'étais absolument pas maître du cheval. Donc en descendant du cheval, le cheval était disqualifié, c'était pas mon cheval, hein, je le faisais au nom d'un propriétaire, et donc le propriétaire m'a accueilli à la sortie, j'ai eu le droit à une semonce, et évidemment j'étais jeune, mon orgueil a été fort piqué, et le Seigneur s'en est servi pour me donner justement l'inspiration qui ne m'attendait pas là. J'aurais sûrement perdu mon âme, ça c'est clair. Hein. Dans ce milieu, la messe le dimanche, c'était pas question. Moi, j'ai toujours pratiqué, hein. J'ai eu la grâce, c'est vraiment une grâce d'être née dans une famille catholique pratiquante. Et donc du coup, piqué dans mon orgueil, j'ai pris une autre orientation professionnelle qui m'a amenée, en fait, compte à la vie religieuse. Et c'est là, hein, on se dit, Et alors, elle est, évidemment, au moment, vous imaginez bien que j'ai tapé du pied, pourquoi, j'ai même cru que maman priait justement pour m'empêcher de réussir dans ce milieu. Mais non, donc Jésus m'avait fragilisée hein, pour justement donner sa volonté, me parler de sa volonté. Voilà, pour les inspirations. Alors, une petite histoire pour illustrer, de toujours notre saint fondateur. Donc, alors c'est Saint Cyprien, donc non l'évêque de Carthage, il s'agit d'un autre, qui était laïc et qui mourut martyr, fut touché en voyant le diable avouer son impuissance sur ceux qui mettent leur confiance en Dieu. Lorsque j'étais jeune, deux étudiants, tous deux débauchés, dont l'un était hérétique, marchaient la nuit dans une rue de Paris. Ils entendirent sonner les matines au monastère des Chartreux. L'hérétique demanda à l'autre pourquoi l'on sonnait ainsi au milieu de la nuit. Et l'autre lui fit comprendre avec quelle piété on célébrait l'office dans ce monastère. « Oh, dit l'hérétique, que leur occupation est différente de la nôtre, ça c'est sûr. Ils sont comme des anges et nous comme des bêtes. » Le jour suivant, voulant se rendre compte par lui-même de ce que son compagnon lui avait dit, il trouva ses pères dans leur habit de cœur, chacun dans sa stalle, immobile, rangé comme des statues de marbre, tout à leur office, qu'ils chantaient avec une attention et une piété angélique, comme on le fait dans ce saint ordre. Ce pauvre jeune homme, ravi d'admiration, fut saisi d'une joie extrême à voir comment Dieu était si bien adoré chez les catholiques. Peu après, il décida de rentrer dans le sein de l'Église, qui est la vraie et l'unique épouse de celui qui, par une inspiration, était venu le visiter alors qu'il se vautrait dans une vie de débauche. Voilà. C'est en ça, entre autres, qu'on... Pas uniquement, mais entre autres, une inspiration doit derrière susciter la volonté pour l'accomplir. Si c'est juste voilà, une lumière qui nous montre quelque chose, mais qu'on n'emboîte pas le pas, ça ne vient pas obligatoirement de Dieu. Ça peut être juste une belle idée, quoi. Un des signes qui permettent de juger de nos inspirations, et surtout des extraordinaires, parce qu'aujourd'hui, enfin, je vais peut-être caricaturer, mais tout le monde entend un petit peu Jésus et Marie lui parler, hein, on entend beaucoup ce phénomène. Alors attention, je dirais c'est au fruit hein, qu'on peut reconnaître si ça vient vraiment de Dieu. Et entre autres, c'est la paix du cœur qui s'ensuit. Il arrive que l'Esprit-Saint souffle violemment, mais cette violence est toujours douce, délicate, apaisante. Lorsqu'il vint comme un vent impétueux et un feu tombé du ciel, l'Esprit Saint ne renversa pas les apôtres, il ne les troubla même pas. Leur frayeur ne fut que d'un instant et fit immédiatement place à une douce assurance. C'est pourquoi le feu reposa sur chacun, dit ceux, comme s'il voulait à la fois prendre sur chacun son repos et à la fois le donner à chacun. Au contraire, l'esprit malin est turbulent et revêche. Ceux qui suivent ces suggestions qu'ils prennent pour des inspirations venues du ciel sont habituellement reconnaissables à ceux qui sont toujours agités, toujours inquiets, obstinés, suffisants, remant mille affaires, hein, qui n'aboutissent à rien souvent. Sous prétexte de zèle, ils mettent tout sans dessus dessous, ils tensent les uns, blâment les autres, critiquent tout le monde, gens qui ne supportent rien, sans indulgence, ne sachant où ils vont, livrés aux passions de leur amour propre, mais prétendument jaloux du seul bonheur de Dieu. Alors je redis, quand on a une inspiration, on doit la faire juger, reconnaître par une autorité de l'Église. Donc soit son directeur spirituel, soit le confesseur. Vous allez dire, oui, mais il ne connaît pas. Oui, mais si on y va vraiment avec un regard de Dieu, vraiment un regard de foi, Dieu parlera à travers le confesseur. Même si, à nos yeux, le prêtre nous paraît un peu douteux dans sa doctrine, d'accord ? Hein, c'est, faut vraiment avoir un... Parce que, toujours pareil, si en obéissant, vous pensez vous tromper, l'obéissant ne se trompe jamais. On ne se trompe jamais quand on obéit. Même si, peut-être... que lui, il n'aura pas vu que c'était vraiment Dieu qui vous le demandait. Mais en obéissant, Dieu vous rattrapera toujours. Ça, c'est important. Parce que souvent, ce sont mine de rien, nos critères hein, qui font, ben voilà, oh ça, je suis sûre, c'est une inspiration de Dieu. Ben, le fait de se mettre dans l'obéissance, donc de couper court à sa volonté propre, déjà, oups, ça met notre volonté de côté, ça nous ouvre à l'Esprit Saint, et là, le prêtre pourra y voir clair. Hein? Alors, maintenant, une petite méthode que je vous propose. Alors, attendez, je me tourne entre mes feuilles. Dans le traité de l'amour de Dieu, notre saint fondateur propose une petite méthode pour connaître la volonté de Dieu. Donc, elle est de saint Basile, nous dit que la volonté de Dieu nous est signifiée par ses commandements et que dès lors, il n'y a pas lieu de délibérer. Il faut faire ce qui est ordonné. C'est sûr que le dimanche matin, c'est pas le moment de se demander est-ce que je dois aller à la messe, est-ce que je dois pas aller à la messe. Ça se dit tout seul. Hein. Je rappelle que le samedi soir ne remplace pas celle du dimanche. Il faut faire ce qui est ordonné. Mais que pour le reste, nous pouvons user de notre liberté et choisir ce que bon nous semble, bien qu'il ne faille pas faire tout ce qui est possible de faire, mais seulement ce qui convient. Et enfin, pour discerner ce qui convient, il faut écouter l'avis d'un sage père spirituel. Je veux tout de suite vous avertir d'une tentation insidieuse qui très souvent survient aux hommes qui ont un vrai désir de suivre en toute chose ce qui est le plus conforme à la volonté de Dieu. L'ennemi, en effet, les fait tomber dans le scrupule. Est-ce bien la volonté de Dieu qu'elle fasse ceci plutôt que cela? Par exemple, est-ce sa volonté qu'elle mange avec un ami ou qu'elle ne mange pas? Qu'elle prenne un habit noir ou un habit blanc? Qu'elles jeûnent le vendredi ou le samedi, qu'elles aillent à la récréation ou qu'elles s'y abstiennent, qu'elles perdent beaucoup de temps dans ces délibérations, et tandis qu'elles s'emploient à discerner ce qui est le meilleur, elles laissent passer l'occasion d'accomplir de bonnes actions qui seraient plus à la gloire de Dieu que de délibérer entre le bien et le meilleur. On peut sourire, mais ceci dit, des fois on est un peu là-dedans quand même. Hein. On n'a pas coutume de peser à la balance la menue monnaie, mais seulement les pièces qui ont de la valeur. Il serait fastidieux de peser les sols, les liards, les deniers et les pites, et cela prendrait trop de temps. De même, on ne doit pas peser nos actions pour savoir si les unes valent mieux que les autres dès lors qu'elles sont insignifiantes. Il se glisse même là une certaine superstition. Quelle différence à aller entre la messe ou telle église plutôt qu'en telle autre, de filer plutôt que de coudre, de donner l'aumône à un homme plutôt qu'à une femme. Ce n'est pas bien servir son maître que d'employer autant de temps à balancer sur ce qu'il serait mieux de faire qu'à faire ce qui est requis de faire. Notre délibération doit être proportionnelle à l'importance de ce qui est en cause. Ce serait le signe d'une inquiétude déréglée que de prendre autant de peine à préparer un voyage d'une journée qu'un autre de 300 ou 400 lieues. Le discernement d'une vocation, le projet d'une affaire de grande conséquence, une œuvre de longue haleine, une dépense importante, un changement de domicile, le choix de ses fréquentations méritent, comme toutes les choses importantes, que l'on y pense sérieusement pour voir ce qui est le plus conforme à la volonté de Dieu. Mais pour ce qui est des petites affaires de la vie quotidienne, où une erreur n'aurait pas de conséquences et serait même facilement réparable, pourquoi s'en empêtrer, en faire tant d'histoires et consulter à tout propos? Pourquoi me mettrais-je en peine de savoir si Dieu aime mieux que je dise le rosaire ou l'office de Notre-Dame, puisque de toute façon, il n'y a pas entre l'un et l'autre une différence si grande qu'elle mériterait une grande enquête? Faut-il plutôt que j'aille à l'hôpital visiter les malades ou que je me rende aux vêpres, que j'aille écouter un sermon plutôt que de visiter une église indulgenciée? Comme il n'y a rien de remarquable qui commande l'un ou l'autre choix, pourquoi perdre son temps en délibération? Il faut aller tout bonnement, sans finasser et, comme dit saint Basile, faire librement ce que bon nous semble, sans contention d'esprit, sans vaine inquiétude, sans perte de temps, de peur de tomber dans le scrupule et finalement dans la superstition. Je parle là d'actions dont l'une ne vaut ni plus ni moins que l'autre et qu'aucune circonstance particulière ne vient différencier. Et moi je rajouterais, c'est pas parce que ma voisine le fait qu'il faut que je le fasse. On n'est pas tous invités à vivre la même chose. Même quand il s'agit de choses conséquentes, restons humbles et n'allons pas imaginer que nous découvrirons la volonté de Dieu à force d'examens et de subtiles analyses. Mais après avoir demandé au Saint-Esprit de nous éclairer, avoir réfléchi à ce qui serait le bon plaisir de Dieu, avoir pris le conseil de notre directeur, et s'il y a lieu, de deux ou trois personnes spirituelles, décidons-nous au nom de Dieu. La décision prise, ne revenons pas sur notre choix, mais avec foi, approfondissons-le dans la paix et la constance. Il surviendra, bien sûr, parce que ce sera la bonne décision de prise, des difficultés, des tentations, des contrariétés, comme il s'en rencontre toujours dans l'exécution de nos desseins. Elles pourront nous faire douter d'avoir fait le bon choix. Il faudra néanmoins rester ferme, ne point nous y attarder, et considérer que si nous avions pris un autre parti, les difficultés eussent peut-être été 100 fois pires. Hein, souvent on se fait avoir, on a pris une décision dans la paix, et au moment de la tourmente, on remet tout en cause. Là on fait le jeu du démon, et là on ne fait plus la volonté de Dieu. En fait, quand on choisit sa propre volonté, la barque tangue, on a peur, hop, on descend de la barque. La tentation dans le choix qu'on a posé devant la volonté de Dieu fait partie de l'accomplissement du dessein de Dieu, du fruit qu'on va en tirer. Et c'est pas, nous, on pense que parce qu'il y a de la tempête, on a pris la mauvaise décision. Non, on a pris la bonne décision, il y a de la tempête, bon signe, dit le curé d'Ars, ça nous indique que le démon n'est pas content. Donc il faut toujours se réjouir quand la barque est tangue. Pas chose facile, hein. D'ailleurs, savons-nous si Dieu veut nous sanctifier par la consolation ou la désolation, par la paix ou la tribulation? Quand la résolution est saintement prise, son exécution s'opère aussi saintement, n'en doutons pas. Agir autrement témoigne d'un esprit orgueilleux, sot et dépourvu d'expérience. Hein? Voilà pour la volonté de bon plaisir. Hein? Non, pardon, la volonté de Dieu signifiée par les commandements, excusez-moi, les inspirations et donc les inspirations, on a dit les règles et constitutions. Après, on a la volonté du bon plaisir de Dieu. Mais avant d'y passer, de passer à cette deuxième volonté, qui est la plus courante, un petit mot sur le devoir d'État, qui est de nos jours bien mis à mal. Et pourtant, Jésus, c'est au quotidien qu'il nous dit dans nos cuisines ou dans le cambouis pour les messieurs, sa volonté. Hein. Et là, il n'y a pas besoin de faire de neuvaine à l'Esprit Saint pour savoir ce qu'on a à faire. Hein. Quand il est midi, le repas il doit être pris. On ne doit pas se trouver à l'église. Le devoir d'État. Et Saint Augustin fondateur a beaucoup, beaucoup prêché à toutes ces dames qui l'accompagnaient dans la vie spirituelle sur le devoir d'État. Parce qu'elles avaient toutes, bien entendu, envie d'être carmélites, mais elles étaient mariées. Le devoir d'État. Il n'est pas d'obligation sur laquelle Saint François de Sales est plus fortement insisté. C'est que, selon lui, les devoirs de notre vocation sont l'expression, ça c'est fort, les devoirs de notre vocation, la vôtre comme la mienne, dans ces devoirs, sont l'expression la plus claire et la plus précise de la volonté actuelle de Dieu sur nous. Donc si moi j'ai envie d'aller faire le marché, je ne suis plus dans la volonté de Dieu, ça ne fait pas partie de ma vocation. Donc je suis à côté si je vais faire le marché. Et vous, si vous passez toute la matinée à l'église en négligeant votre devoir d'État, ça veut dire de faire la cuisine pour que quand votre mari arrive, il trouve le repas prêt, les enfants, même chose. Si vous négligez de vous occuper de vos enfants, oui mais attendez, je passe mon temps à prier pour eux. Ben ouais, mais vous n'êtes plus dans la volonté de Dieu, vous êtes dans la recherche de votre propre volonté. Et pourtant, à chaque fois, on est persuadé d'être dans le bon. Hein. Or, puisqu'il n'est d'union possible que dans l'accomplissement de cette volonté, il n'est point de progrès possible en l'amour hors de l'accomplissement du devoir d'État. Donc en somme, quand on est à l'église toute la matinée en négligeant notre devoir d'État, on n'est plus dans cette union avec Dieu. Et du coup, je dirais que la matinée à la prière, j'exagère, hein, mais la matinée à la prière va porter aucun fruit. Quel est le moyen de parvenir à la vraie dévotion, lui demande Madame Brûlart. Et Saint François de Sales de répondre, outre les commandements de Dieu et de l'Église imposés à tout chrétien, il faut observer les commandements particuliers qu'à chacun a pour sa vocation. Et quiconque ne le fait, quand il ferait ressusciter les morts, c'est pas petit, il ne laisse pas d'être en état de péché et damné s'il y meurt. Il ne va pas par quatre chemins. On ne saurait affirmer plus nettement la stricte obligation du devoir d'État. Si humble soit-il, il peut nous mener à la perfection de l'union comme l'emploi le plus digne. En la maison de Dieu, les plus dignes sont ceux qui le servent avec le plus d'obéissance et d'amour. Par conséquent, tout ce qui nous détourne de la pratique de nos devoirs d'État, fût-ce une œuvre en soi excellente, une œuvre de charité, hein, est contraire à la perfection. Quand nous serions les plus excellentes créatures du ciel, de quoi nous servirait cela si nous ne sommes pas au gré de la volonté de Dieu? Gardons-nous surtout de négliger le devoir d'État sous prétexte de dévotion. Si le devoir l'exige, la prière même, entendons l'exercice extérieur de prière, lui sera sacrifié. Saint François de Sales applique cette règle pour lui-même, sans scrupule ni étroitesse. Évêque, il s'est fait un règlement personnel où l'oraison, les prières vocales, la lecture spirituelle ont leur place. Pourtant, dit-il, je n'ai point de scrupule de me déranger de ce règlement quand le service de mes brebis le demande, car il faut que la charité soit plus forte que nos inclinations. C'est quitter Dieu pour Dieu, or faire quelque chose pour Dieu, c'est faire oraison. Mais ce n'est pas dans la recherche de nous-mêmes. Voilà. Il faut bien avouer que on aime bien prier. Ben, c'est sûr que c'est pour nous une certaine satisfaction d'aller passer une bonne heure de prière à la chapelle, et alors que la cuisine, oh là là, moi c'est l'épreuve par excellence. Je n'aime pas faire la cuisine, donc c'est vrai que j'ai plutôt tendance à rester à la chapelle, et puis je vais chercher un petit plat surgelé tout près. Jésus nous attend dans nos casseroles. Et là, il y a moins de recherche de nous-mêmes, mais du coup, il y a plus d'union. Et du coup, il y aura plus de fruits pour le mari. Combien j'entends qui prient et reprient pour la conversion de leur mari, mais qui sont donc à s'enfermer dans les chapelles, mais jamais à mijoter des petits plats, parce qu'on sait très bien que, ça dit quelque chose de l'affection, hein, quand on mijote des petits plats. Voilà pour le devoir d'État. Et j'en arrive à la volonté du bon plaisir de Dieu. Il y a de plus la volonté du bon plaisir de Dieu, laquelle nous devons regarder en tous les événements. Je dis tous les événements. Je veux dire en tout ce qui nous arrive. En la maladie, en la mort, en l'affliction, en la consolation. Est-ce chose adverse et prospère, bref, en toute chose qui ne soit point prévue. Et à cette volonté de Dieu, nous devons toujours être prêts de nous soumettre en toute occurrence. Est-ce chose désagréable, comme est-ce agréable, en la mort comme en la vie, enfin en tout ce qui n'est point manifestement contre la volonté de Dieu signifiée, car celle-ci va devant, celle qu'on a vue auparavant. Dans son traité de l'amour de Dieu, voilà ce que dit notre saint fondateur, rien ne se fait hormis le péché que par la volonté de Dieu. Donc le péché, c'est nous qui le faisons, c'est clair. Moi je rajoute que Jésus va jusqu'à permettre le péché, hein, pour pouvoir nous faire miséricorde. Donc quelque part, il y a quand même un peu de volonté aussi de Dieu là-dedans, parce que lui, il voit au-delà dans son éternité qu'il va pouvoir nous récupérer derrière le péché. Donc voilà. Mais ceci dit, donc tout ce qui nous arrive est permis par Dieu. Ce qu'on appelle volonté de bon plaisir. Alors, elle ne nous est connue que par ses effets. Il suffit que ses effets soient advenus pour qu'ils soient manifestes que Dieu les a voulus et déterminés. Tandis que nous cheminons ici-bas dans l'application aux différents devoirs que comporte notre état de vie, Voilà que brusquement se dressent sur nos pas les croix de la Providence par où se manifeste le bon plaisir de Dieu. Devant les contretemps, vous allez en avoir au moment des fêtes, en invitant ici ou ça. Et puis, ils ne vont pas répondre à l'invitation, ou ils vont arriver grincheux, ou le soufflet va retomber parce qu'ils sont arrivés en retard. Voilà, il y a plein de contrariétés. Les épreuves, les deuils. Nous devinons quelle sera l'attitude d'une âme de foi instruite dans la vraie science de Dieu. La vraie science de Dieu nous apprend, sur toute chose, que sa volonté doit ranger notre cœur à son obéissance et à trouver bon, comme en effet il est très bon, tout ce qu'elle ordonne sur les enfants de son bon plaisir. Ainsi l'évêque recommande-t-il la soumission à la volonté divine en toute occasion. Il dit « Soumettez souvent votre volonté à celle de Dieu, étant prête à l'adorer autant qu'elle vous enverra des tribulations comme autant des consolations. » Il nous donne cette règle de conduite, science sainte, vrai trésor, dont nous ne saurions trop nous pénétrer. Il faut faire ces actions par l'obligation que nous y avons ou par un simple acquiescement au bon plaisir de Dieu et faire ceci autant dans l'orage que dans le calme. Notre saint fondateur a été très loin dans cet abandon à la volonté de Dieu. Il a donné à ses filles la haute perfection à laquelle on est appelé à l'élévation, c'est celle de l'indifférence, le saint abandon de Dieu. Ça veut dire que qu'il fasse soleil ou qu'il pleuve, ça ne doit rien nous faire. Voilà. Parce qu'on est dans le oui. Voilà. Quoi qu'il nous arrive, on dit oui. Mais ça veut dire que dans ce qui va nous arriver, on y voit quoi? La main de Dieu. C'est-à-dire que quelque chose, la voiture qui tombe en panne, hein, eh bien voilà, bon ben Jésus, c'est toi qui le veux, quoi. Voilà. Pourquoi? Pour toujours permettre une histoire du cœur qui s'ouvre et l'Esprit Saint qui puisse rentrer et nous purifier et puis nous faire mourir à nous-mêmes, quoi. C'est toujours ça. Cet amour propre qui rebute à faire la volonté de Dieu, qui fait ses choix en fonction de ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas, eh bien, le Seigneur va utiliser les épreuves pour rogner cette volonté propre. Hein. Donc, quand on est installé dans le oui de Marie ou le oui de Jésus à Gethsémani, on sent, et ça a été tout le travail de notre saint fondateur, et entre autres nous, c'est là-dessus qu'on s'attelle au quotidien, eh bien, de vouloir ce qu'il veut nous arriver. Hein. Donc, il y a la première étape, c'est dire oui à la volonté de Dieu, et après, la vouloir. Voilà. Ben oui. Et après, l'aimer. On passe. Hein. Mais je vous assure je vais prendre un exemple extrême. On vous annonce que vous êtes atteint d'un cancer, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il y en a beaucoup. Comme on a dit, hein, c'est la volonté de Dieu qui m'est annoncée dans le diagnostic. Je suis atteinte d'un cancer. Deuxième étape, je vais dire oui. Alors, je vais mettre le temps, bien sûr, hein, et il faut s'inscrire dans le temps. Et je vais dire oui à cette volonté. Jésus, t'es dans ce cancer, tu me le demandes. Bon, je te dis oui. Je m'inscris dans le oui de Marie, ça aide, hein, dans des personnages de la Bible, parce que ce sont des saints, ils nous donnent leur grâce. Et la troisième étape, c'est que je vais aimer cette maladie. Oui, mais attendez, elle vous emmène à la mort. Non, elle ne m'emmène pas à la mort. Elle m'emmène à la vraie vie. Voilà. Oui, mais j'ai tous les miens. Oui, ça je sais bien. Mais en amont, la maladie, elle est présentée par Dieu. Il est le seul à savoir ce qui est bon pour nous. Il est le seul à savoir comment il donnera la fécondité à notre vie. J'ai pas dit que la volonté de Dieu était facile à accueillir. Attention, hein. Je sais très bien que quand on nous annonce ce genre de nouvelles, mais toute nouvelle, vous travaillez, vous êtes père de famille, on vous annonce que vous êtes licencié. Pour certains, ça le même poids, la même frayeur que de tomber malade. Hein. On est tous percutés dans les membres de nos familles, nous personnellement, par des nouvelles qui sont effrayantes, hein, parce que le monde est un peu fou, hein, donc ça va avec. Hein. Je vous assure que c'est perdre, c'est augmenter la souffrance, c'est perdre du temps que de dire non, C'est pas possible que ce soit la volonté de Dieu. Ben si. Il y a des saints comme saint François de Sales qui a en tout cas orienté toute sa vie, et c'est aussi pour ça qu'il est docteur de l'Église, c'est sa spiritualité, c'est son enseignement, que tout nous arrive par la volonté de Dieu. Voilà. La vraie sainte science, c'est de laisser faire et défaire à Dieu, en soi et en toute chose, ce qui lui plaira, sans avoir d'autres vouloirs et élections, c'est-à-dire choix, révérant d'un profond silence ce que l'entendement de la faiblesse humaine ne peut comprendre. C'est clair. Quand on vous annonce que vous êtes atteint d'une maladie, on ne peut pas comprendre. Humainement, c'est incompréhensible. Et aujourd'hui, on pense que pour faire la volonté de Dieu, il faut comprendre quelque chose pour dire oui. Ben non. On peut très bien dire oui sans comprendre. Vous croyez que Marie, elle a compris quelque chose quand l'ange Gabriel lui a annoncé qu'elle serait la mère du Sauveur. Elle n'a rien compris, mais elle a dit oui. Parce qu'elle était immaculée, donc ça lui a posé en somme... Enfin, je fais un raccourci, hein. Elle avait la grâce, enfin pleine de grâce pour dire le oui, quoi. Hein, qui était inouï, mère de Dieu. Nous, plus on sera dans l'union à Dieu, c'est-à-dire plus on sera unis à sa volonté, plus on sera, entre guillemets, pleine de grâce. Donc la capacité surnaturel de dire oui à la volonté de Dieu. C'est pour ça que la volonté du bon plaisir de Dieu doit être portée par cette vie d'union, cette vie d'oraison. Si j'ai fait précéder mon enseignement de la volonté de Dieu de l'oraison, de l'union, c'est entre autres pour nous faire, pour faire rentrer le plus possible au quotidien Jésus dans nos cœurs, pour qu'il nous sanctifie, pour qu'on trouve en nous la grâce de dire oui à des volontés du bon plaisir qui nous font chanceler, c'est clair. Hein. Tout seul, c'est impossible de dire oui à la volonté de Dieu au quotidien. On doit, comme Marie, puiser dans cette union qu'elle avait avec Dieu. Donc il n'est pas nécessaire de comprendre pour dire oui à Jésus, car ses desseins peuvent être cachés. Mais attention, c'est une parole de notre saint fondateur hein, qui est très belle. Ses desseins peuvent nous être cachés, mais ils sont toujours justes. Voilà. Juste pour le bien de notre âme, pas obligatoirement pour le bien de notre corps, dans le sens, je m'installe sur cette terre, notre vraie patrie, c'est la patrie céleste. Hein. Je sais que ça peut être dur à entendre, hein, mais voilà, notre vrai bien, c'est celle de notre âme. Voilà. J'irais quelque part... on pourrait en vouloir à Dieu si Dieu se désintéressait du bien de notre âme en nous laissant tout faire, en ne contrariant pas notre plan, c'est-à-dire notre volonté. Moi, je sais très bien, imaginons, je remonte à ma petite histoire de chute de cheval, hein. Enfin, je ne suis pas tombée quand même, mais il m'avait baladée. Eh bien, si, imaginons que Jésus n'ait pas, n'avait, parce que j'ai appris en rigolant, en reprenant ça dans ma prière, quand mon orgueil avait dégonflé, j'avais appris l'histoire dans la prière et je m'étais dit, ah, je suis sûre que Jésus avait piqué le cheval et du coup était parti un peu trop vite. Eh bien, mais s'il ne l'avait pas fait, je me serais engagée dans la carrière d'équitation. Je vous dis, c'était un milieu où il y avait beaucoup de beuveries, je suis désolée, hein, plus de messe le dimanche. Je pense pas, je pense pas que je serais restée, comment dirais-je, droite, hein, c'est clair. Bon, c'est sûr, j'ai eu cette grâce en tout cas. Et je pense que je me serais mise à la sortie, j'aurais fait n'importe quoi. Voilà, il y avait aussi beaucoup d'argent, donc c'est un milieu où il y a beaucoup d'argent, donc j'aurais dépensé. En plus, j'ai toujours gardé ça, mais j'aime les belles choses, donc voilà, j'aurais dépensé. Et je suis sûre que j'aurais perdu mon âme. C'est sûr qu'au moment où je me suis retrouvée au bas du cheval avec le propriétaire me tensant en me disant voilà, la chute là, waouh, eh bien, je me vois encore, eh bien, c'est sûr que je me suis dit, mais attends, enfin, quoi, Dieu te permet de ça? Ben oui, et c'est le bien de notre âme qui vise. Hein. Et aujourd'hui, bah, je vous dis, aujourd'hui, merci Seigneur, quoi, merci, quoi. Et alors c'est sûr que sur le moment, la volonté de Dieu, ben non, c'était pas la volonté de Dieu pour moi. Mais, parce que j'avais pas cet enseignement. Mais ce qui m'arrivait était voulu par Dieu. Et je suis sûre qu'il a piqué le cheval pour qu'il s'énerve. Voilà. Parce que je n'aurais pas pris cette orientation et je me serais perdue. Voilà. Donc tout ce qui nous arrive est permis par Jésus. Donc sur le moment, on ne comprend pas, elle est injuste, etc. Mais c'est jamais injuste du côté de Dieu. C'est toujours juste parce qu'il nous a fait et on est à lui. Donc il est le seul, moi je sais qu'en tant que supérieur aujourd'hui, quand il m'arrive des coups de Trafalgar, il m'en arrive, et bien, et puis chouette, et bien je dis, alors, bon Jésus, tu veux mon bien, tout ce que tu permets est pour mon bien, donc qu'est-ce que tu attends de moi? Voilà. Je me pose en général, hein, et puis je dis, bon, je te dis oui, quoi, d'emblée, parce que bon, il y a un petit peu de bouteille, et puis après, voilà, on regarde, quoi. Mais déjà dans la disposition du oui, dès qu'on dit non, on se ferme, l'Esprit Saint ne peut pas nous travailler. Et puis là, on augmente la souffrance. Puis il y en a un qui est trop content, qui arrive au galop, quoi, et qui vous ferme sur votre orgueil. Parce que c'est clair, c'est sur notre orgueil que ça pêche, quoi. Hein. Donc voilà. Alors je pense, j'espère en tout cas avoir le temps. Ouais. Le temps, ça Jésus voulait vous en parler. C'est pas de moi, même si voilà, moi je signe hein, ce genre de d'écrit. Je vais vous partager dans le prolongement de notre saint fondateur une petite. Je vais pas la donner en entier. C'était une petite, un petit enseignement, un petit tréco que le père Guibert nous avait donné peut-être bien déjà un an sur justement devenir un grand oui à l'école de saint François de Sales. Donc un grand oui à la volonté de Dieu. Hein, parce que c'est sûr que là, vous êtes tous d'accord avec moi, j'en suis sûre. Mais oui, c'est sûr, il faut dire oui à la volonté de Dieu. Bon, après, l'aimer, c'est une autre étape. Mais bon, on finit par y arriver. Quand on est persuadé que Dieu veut notre bien, qui comme il est l'amour, il veut notre bien, donc on finit par y arriver. Mais il y a des petites étapes hein, avant pour arriver à ça. Et puis là, notre bon père nous avait expliqué ça, et je vais en prendre une petite partie. Donc c'est déjà se décider à voir la volonté de Dieu en tout ce qui nous arrive. Ça, il faut en être convaincu, heureux comme malheureux. Donc jusqu'à maintenant, donc cet essentiel fonctionne comme le levier d'Archimède. Il permet de soulever tout l'ensemble de la vie spirituelle, jusqu'à rendre la vie de tous les jours tellement plus légère. Le basculement dans la vie profondément spirituelle, la vie dans l'esprit, advient lorsque l'âme se décide à voir la volonté. Il dit bien, quand l'âme se décide. Donc ça vient de nous. C'est une décision à prendre. Moi je vous invite en cours des jours qui vont arriver, autour de Noël là par exemple, hein, où Jésus va s'incarner, donc voilà, le cœur de Jésus va prendre chair, hein. Il va donc prendre la décision hein, de se faire notre sauveur en ce moment. Dieu donne un sauveur dans l'incarnation. Il était dans le sein de Dieu avant, hein, toujours existé, mais là, tac, jour de Noël, Jésus vient. Il dit oui, Jésus a la volonté de Dieu. C'est l'occasion de prendre autour de la crèche, à partir de Noël, je prends la décision, je décide que tout ce qui m'arrive, heureux ou malheureux, c'est la volonté de Dieu. C'est pas le fruit du hasard. C'est pas le fruit du péché de mon voisin, c'est pas l'injustice, c'est pas le monde qui est pourri qui vit sans Dieu, non, c'est la volonté de Dieu. En tout ce qui lui arrive, voir cette volonté divine, même pour aussitôt la vouloir. Voilà. Obéir à la volonté de Dieu qui se manifeste à nous à travers les commandements de la morale, donc ça on l'a vu, le devoir d'État, ainsi que la règle pour les religieux, ça on l'a vu. Tout ceci est très bien, mais cela ne représente que le minimum requis pour mener une vie chrétienne digne de ce nom. Si nous voulons entrer dans les choses sérieuses, si nous voulons connaître la divine transformation, il faut aller plus loin, jusqu'à épouser la volonté de Dieu se manifestant dans l'ici et le maintenant. Parce que souvent on dit « Ah oui, moi je veux la volonté de Dieu, mais ça qui m'arrivera demain ?» Ben non, c'est celle d'aujourd'hui, celle-là quand vous allez me quitter. Clac, vous allez avoir un coup de téléphone qui va vous annoncer telle chose, ou vous allez avoir une contrariété, votre mari qui ne va pas vous comprendre, des choses qui vont vous arriver, mais tout de suite, c'est pas celle de demain, parce que il n'y a pas comme dit le Père, la grâce ne se surgèle pas, c'est la grâce du moment qu'il faut utiliser. Les aléas de la vie quotidienne, ce que saint François appelle le bon plaisir de Dieu. Donc ça, on l'a vu. Vouloir cette volonté de Dieu se manifestant dans l'ici et le maintenant. Non seulement Jésus me demande de voir sa volonté dans les riens du quotidien, mais il me demande de la vouloir, de vouloir son vouloir. dit acquiescer par un oui libre, filial, aimant. Nous le présentons si cette volonté divine, nous le pressentons si cette volonté divine se manifestant dans tel ou tel événement était seulement subie par l'âme, elle ne pourrait pas la transformer. Voilà l'enjeu. Si on la subit, on a le joug sur les épaules, on est écrasé par cette volonté. Mais c'est dommage parce qu'on va c'est certes qu'on va traverser l'épreuve. Vous n'en êtes pas à la première épreuve, moi non plus. Mais ceci dit, rien ne va se faire. Aucune transformation à l'intérieur de nous. Seul le oui dans l'amour transforme. Or l'amour de Dieu, comme tout amour, a ses lois. Jamais Jésus ne s'impose. Toujours il se propose. Et c'est l'homme qui dispose de dire oui ou non. Jésus ne va, il va se présenter à vous dans son épreuve, mais il ne va jamais vous violer, il ne va jamais quémander jusqu'à vous prendre de force votre oui. Dire oui ou non, sinon tout cela ne serait qu'une caricature de l'amour. Voilà. On ne contraint jamais à aimer une personne. C'est ça qui est même douloureux quelque part. Hein. Ouais. Ce mystère de l'Eucharistie, Jésus, il s'est fait notre nourriture tout petit. Dieu qu'il est, il a d'emblée, il savait très bien, tous les blasphèmes qui seront faits vis-à-vis de son amour. Et par amour, il s'est donné, il s'est fait notre nourriture, sachant tout ce qui allait lui arriver. Moi, ça, c'est plus grand. Nous, on a mis protection pour justement qu'on nous aime selon nos lois. Hein. Empressons-nous d'ajouter que face à tel événement contrariant, on peut ressentir du dégoût. Voilà, on pense que pour faire sa volonté de Dieu, il faut sentir au fond de son cœur « Oh, je me sens bien en paix devant la nouvelle qui vient de m'être faite. Je peux dire oui. » Ah ben non. Vous pouvez dire oui à la volonté de Dieu dans les larmes, avec un cœur, l'estomac renversé, même en ayant... souvent, il y a des réactions qui sont... on pouvait même des fois déclencher des zonas, un érysipèle, selon les nouvelles qu'on vous annonce, les situations qui vous sont sur lesquelles vous allez être confronté, le corps réagit, hein, mais ce n'est pas pour autant qu'on est dans le non. L'extérieur, les réactions du corps vont exprimer une souffrance du corps, la difficulté à adhérer à la volonté de Dieu, mais dans votre volonté, si vous avez dit oui, ce n'est pas grave, vous êtes dans l'oubli. Donc dégoût, de la répulsion, mais ça c'est au niveau du sensible, rien de plus normal, je dirais même c'est normal. Seul le oui permet à Jésus de prendre possession de nous. Et saint François de Sales, s'adressant donc à l'Exaltation, dit « C'est la quintessence de la vie spirituelle que ce parfait abandonnement entre les mains du Père Céleste et cette parfaite indifférence en ce qui est de ses divines volontés. Ah, mes chères sœurs, si quand nous nous consacrons au service de Dieu, nous commencions par permettre absolument et sans réserve notre esprit entre ses mains, que nous serions heureux. Tout le retardement de notre perfection ne provient que de ce défaut d'abandon. Et il est vrai qu'il faut par là commencer, poursuivre et finir la vie spirituelle à l'imitation du Sauveur, qui l'a fait avec une admirable perfection au commencement, au progrès et à la fin de sa vie. Jésus n'a été qu'un oui. Et voilà, arrive le côté pratique. C'est ça que je voudrais sur lequel je vais vouloir terminer. Apprendre le couper court aux pensées toxiques. C'est sûr, quand la volonté de Dieu arrive, nous est manifestée dans « Voilà, monsieur, vous êtes atteint d'un cancer », c'est clair qu'il va y avoir des tas de choses qui vont vous arriver dans la tête. Et c'est normal. Je suis grand-père, je suis papa, je suis maman, je suis voilà. Les obstacles à la croissance de la vie spirituelle sont nombreux. Celui qui aspire à une expérience profonde de Dieu devra porter une attention toute particulière ou couper court. De quoi s'agit-il? Tout au long de la journée, chacun est traversé par de multiples pensées qui peuvent paralyser notre vie en Dieu. Si nous voulons que l'Esprit nous inspire plus largement, si nous voulons qu'il prenne davantage en charge les riens de notre vie, nous devrons apprendre à couper court à ces pensées plus ou moins toxiques. Je vous en ai déjà parlé, hein. Mais j'en reparle. Que recouvrent les pensées toxiques? Pensées toxiques, de quoi s'agit-il? Il s'agit des pensées mauvaises, mais aussi et surtout des mauvaises pensées, mais surtout des pensées mauvaises. Nous devons bien sûr lutter contre ce qu'on appelle les mauvaises pensées. Comme on dit communément, par exemple, des pensées de colère, de vengeance ou contre la pureté. Mais attention, ces mauvaises pensées s'ajoutent aussi les pensées mauvaises. C'est pas la même chose. Par exemple, des soucis qu'on ressasse, hein, jusqu'à l'obsession. Ces scénarios qu'on cultive à l'avance pour faire face à une rencontre appréhendée, des projets, un texte à écrire qu'on retourne et retourne à l'avance dans notre esprit. Hein. On a un rendez-vous, on ne sait pas comment on va faire pour... Voilà, j'ai un rendez-vous d'embauche. Oh, qu'est-ce que je vais raconter? Qu'est-ce que je vais dire? Alors, je suis là avant, je tourne dans ma tête, je dis bonjour, voilà, enfin, je fais tout le truc. Ben, ça, non, ça, c'est des pensées qui sont pas, enfin, qui vont parasiter, hein, ça c'est clair. Des piqûres d'épingles de la part du prochain qu'on se remémore jusqu'à vous prendre la tête, comme dit le langage commun. Le piège avec cette seconde catégorie de pensées, c'est que nous trouvons normal, et c'est ça, ouais, c'est le piège, on trouve normal de les ressasser. On trouve normal de se faire le scénario dans sa tête avant d'arriver au rendez-vous d'embauche. Ben non, c'est pas normal. Soit parce que nous avons tout le temps fonctionné ainsi, c'est comme ça qu'on fonctionne, je suis cérébrale, il faut que ça tourne dans ma tête, il faut que j'ai du grain à moudre, moi j'appelle ça comme ça, du grain à moudre. Soit parce que nous pensons que Dieu a bien autre chose à faire que de s'intéresser de nos petits problèmes et que c'est à nous seuls de nous débrouiller pour y trouver une solution, soit plus grave encore parce que nous doutons de Dieu qu'il puisse prendre en charge ce qui fait notre vie jusqu'à intervenir. Voilà. Dieu s'intéresse à nous dans le moindre détail de nos vies, le petit détail de nos vies. Vraiment. Moi j'en aurais des milliers de choses à voir, des milliers d'histoires à raconter sur les petits détails du quotidien, où nous on est dépourvus hein, de la force masculine, on va dire. Et du coup, il faut qu'on fasse avec nos petits moyens. Alors combien de fois, moi je dis à Jésus, hey, tu t'arranges de ça. Et c'est sûr que c'est merveilleux de voir comment il utilise ces petits riens du quotidien pour nous dire qu'il est là. Quoi. Et combien c'est consolant. Donc il s'intéresse à nos vies. Bon, souvent on le dérange que pour les grandes choses. On dit bon là vraiment on peut pas faire autrement. Là on va frapper à la porte du tabernacle et puis on dit bah là Jésus j'ai besoin de toi quoi. Mais non c'est mesdames vous avez un souci avec une recette de cuisine, faut lui demander ce qu'il en pense, lui demander ce qu'il pense de l'assaisonnement de votre plat, ça l'intéresse. Parce que là qu'est-ce qui se passe? Bah on lui fait un acte d'amour, on le dérange. Et Jésus, il est le grand oublié. Faut pas, enfin, aujourd'hui, c'est vraiment ça, quoi. Voilà. Alors, le non aux pensées toxiques permet le oui à Jésus. Nous le disions plus haut, donc l'amour de Dieu a ses lois. Il n'agit dans nos vies qu'à la mesure de notre confiance en son action. On le voit très bien à travers les guérisons de l'Évangile. À deux aveugles qui supplient Jésus de les guérir, il leur demande... « Croyez-vous que je puisse faire cela ?»« Oui, Seigneur, lui disent-ils. » Alors il leur toucha les yeux en disant « qu'il vous advienne selon votre foi. » Mon coupé et court aux pensées toxiques ne relève pas seulement de la vertu ou de la conversion morale, il relève de la foi, en l'influence réelle de Dieu à mon endroit. En coupant court à tel ou tel souci, je le remets entre les mains de Dieu et du même coup, je me dispose à ce que l'Esprit m'inspire sa volonté. Voyez, tout à l'heure, hein, pour l'histoire de la volonté, on ne peut pas entendre Jésus si ça tourne, si on moue, on est en train de moudre son blé, quoi, son idée, sa pensée, son souci. On coupe, Jésus dit... les ondes sont occupées, quoi. La ligne est occupée, je raccroche, je retéléphonerai plus tard. Mais aussi à ce qu'il puisse réellement agir. Voilà, il faut croire qu'il puisse agir. Soit directement, soit indirectement, par des causes secondes, pour solutionner tel problème, dénouer tel souci, comme il l'entend bien évidemment. Comme il l'entend bien évidemment. C'est sûr qu'il peut aussi passer par une tierce personne, quelqu'un qui va vous faire croiser. Moi, je crois que toutes les personnes que je croise, par exemple, toutes les personnes qui sont là aujourd'hui, c'est l'Esprit Saint qui vous a conduit jusqu'ici. C'est pas parce que vous vous êtes rappelé du rendez-vous de la garde d'honneur. Jésus avait l'intention, parce qu'en plus, il y en a qui sont arrivés en retard, donc d'autant plus, Jésus voulait que vous soyez là. Alors, justement, il a permis... Le petit conte, le voilà, mince, j'ai oublié l'heure, ou mince, il y a plus de monde sur la route que je ne pensais, ou si ou ça. Mais c'est pas le hasard, c'est pas parce que c'est comme ça. Non, c'est Jésus qui vous a, en tout cas, qui vous a poussé jusqu'à la visitation, parce qu'il voulait que vous entendiez l'enseignement. Si je ne travaille pas à couper court aux pensées toxiques, alors je vis sous le signe, ça c'est le Père, et je trouve ça super fort. Si je ne travaille pas à couper court aux pensées toxiques, alors je vis sous le signe du non à Dieu. Eh ouais. Donc c'est pas quelque chose dans lequel c'est normal, je fonctionne comme ça, ça a toujours été comme ça, moi il faut que je m'occupe. Ben non. Occupez-vous avec Jésus. Occupez-vous de penser. Des Jésus, je t'aime, ça occupe l'esprit, quoi. Jusqu'un jour, où ça je vous le souhaite, vous n'avez plus rien dans vos têtes, et du coup, elle est pleine de Jésus, quoi. Il n'y a plus besoin de lui parler, il est là. Ça, c'est reposant au possible, quoi. Mais aujourd'hui, quand on est dans un monde de bruit, un monde de soi-disant dialogue, enfin, je veux dire, de retour sur soi en permanence, eh bien, on est habitué, on a peur. J'ai des retraitantes qui arrivent ici, j'en ai déjà vu, hein, qui sont reparties aussitôt en me disant « le silence me fait peur ». Voilà. Donc, quand on arrive chez soi, on met un CD, on allume la télé, on allume la radio, on téléphone une amie. Oh, j'ai une soirée toute seule, mon mari n'est pas là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler une amie, on va causer. Pourquoi vous resteriez pas tranquille dans le silence? Prenez un livre, lisez. Ah ouais, mais... Si j'ai une inspiration. Je rigole, hein, mais je fais passer quand même quelque chose. Donc, je m'entraîne à couper court aux pensées mauvaises. Je m'installe sous le signe du oui à Dieu. Et alors, toute l'attitude pour nous parler et prendre en charge nos problèmes. Est-ce que vous croyez que quand vous allez couper court à votre souci, Jésus va prendre en charge le souci que vous étiez en train de tourner? Il est nécessaire par ailleurs de ne pas trop s'examiner par le menu. Ça, c'est une règle pour la vie spirituelle. On est trop à s'examiner avec la loupe. Voilà, comment je réagis, comment je suis, est-ce que je suis bien, est-ce que je ne suis pas bien? Non, ça sert, c'est des retours sur vous, ça c'est le piège du démon. Qu'est-ce que ça va déclencher? Le scénario. Et on retourne à la case départ. Oui, c'est sûr, ce matin, je me sens pas trop en forme, quoi. Bon, bah, hop, c'est bon, je passe à autre chose, quoi, voilà. Moi, souvent, on me dit, hein, comment vous allez, ma mère? Très bien, à partir du moment où vous s'occupe du Sacré-Cœur, je vais très bien. Si je commence à me prendre le matin la température, à voir à quelle heure je me suis levée, à quelle heure je me suis couchée, tout ce qui me reste sur mon bureau à faire, celle qui frappe à mon bureau, les derniers coups de téléphone à prendre, le rendez-vous chez le médecin pour un tel, hein, je vais pas très bien, quoi. Voilà. Donc, souvent, moi, je ne me pose pas la question. Comme ça, je suis sûre d'aller bien. Voilà. Donc, ne pas trop s'analyser pour savoir si notre volonté a pu, ne serait-ce qu'affleurer au moindre consentement. Jetons tout dans le cœur du bon Dieu sans couper les cheveux en quatre. Précisons enfin qu'il faut pratiquer ce combat contre les pensées toxiques par amour. Voilà. C'est par amour de Jésus qu'on va faire ça. Je ne sais pas là s'il le dit, mais ce n'est pas une technique. Hein. Souvent, c'est ça, on vous propose des techniques pour vous sentir bien. Un parcours, quoi. Souvent on entend ça, des parcours. Non, c'est une histoire d'amour. Votre vie spirituelle, votre vie de garde d'honneur, ça doit être une histoire d'amour avec le Sacré-Cœur. Donc là, un couper court, parce que c'est vrai que des fois, ça demande d'être un peu musclé, hein. Faut des fois relever ses manches, hein. Ça veut dire agir continu des actes d'amour. Jésus, je t'aime, jusqu'à ce que la pensée du scénario, je suis malade, comment je vais finir, me lâche. Eh bien, c'est une histoire d'amour avec Jésus. C'est parce que je l'aime et je lui fais confiance et je lui ai remis ma vie. Hein. À mon baptême, quand mes parents m'ont baptisée, je suis devenue son temple. je ne suis plus à moi, ce n'est pas moi qui gère ma vie. Ce n'est pas qu'on les consacré, ça. Hein. C'est pas... Une consacrée est à Jésus, hein. il m'a sorti du profane, hein. Il m'a pris derrière mon cheval, et puis il m'a mis au monastère. Mais attention, ce n'est pas que moi, ça. Quand la Trinité vous a habité, vous êtes devenu, vous êtes à Jésus, vous êtes sa chose, si je veux dire. Et cette chose, il faut qu'elle se laisse faire. Hein. Donc, et ça, par amour. Je dis qu'il faut faire ces rejets par amour et non pour la nécessité du combat, dit notre saint fondateur. Voilà, donc j'ai dépassé largement, largement l'heure, je suis désolée, mais c'est la dernière. mais alors justement, je pense que vous aurez la suite, comment dirais-je, la suite dans les entretiens que l'année prochaine à laquelle vous serez invité. Hein. Donc là, vous allez voir les tracts, vous les recevrez aussi par mail dans la petite circulaire de fin d'année que je fais en général. Donc l'enseignement de la garde d'honneur va être pris en charge pour l'année 2022 par le père Guibert. Il vous présentera un enseignement qui sera le secret de la sérénité à l'école de Saint-François de Sales. Donc là, ce que je n'ai pas dit, parce que l'heure, je suis quand même obligée de me tenir à l'heure, eh bien, il vous sera dit dans cet entretien du père Guibert. Nettement mieux, 10 fois mieux que moi. Et du coup, vous avez les dates aussi. Oh, si. Vous avez les dates de tous les enseignements. Donc, ça a été fait volontairement de vous donner toutes les dates pour que vous puissiez les retenir sur votre agenda. Hein. Alors, plus d'une date, c'est une journée avec la messe, une petite journée de réco. Donc, moi, je vous invite à faire justement l'expérience d'une petite journée de retraite. Pour rentrer dans un silence, pour que Jésus donne les moyens de vous parler, hein. De s'inscrire dans la volonté de Dieu, justement ce qui sera dit dans cet enseignement. Voilà. Donc je vous souhaite bien sûr de belles fêtes de Noël, hein, et de fin d'année, avec, comment dirais-je, un souci, hein, de grandir dans l'amour du cœur de Jésus, hein, mais selon sa volonté. Hein, pas la nôtre, hein. Pas j'aimerais que ça soit réglé pour l'année 2022, je voudrais être plus ci, je voudrais être plus ça. Non, attention, des fois, on vit telle et telle vertu, telle et telle amélioration, alors que Jésus a un tout autre plan, et du coup, on va se fermer, on ne va pas avoir la grâce pour vivre ce qu'il veut. Donc, peut-être que les contrariétés du repas de Noël font partie de la volonté de Dieu, et ça sûrement, parce que si on a dit que tout nous arrivait par la volonté de Dieu, pour nous faire rentrer dans son plan à lui, hein. Et rentrer dans ce plan de sainteté, c'est obligatoirement de mourir à nous-mêmes. Donc, si on sent des petites choses qui ont du mal à passer le jour de Noël, eh bien, bénissons, rentrons dans la bénédiction. Oui, Jésus, et par amour, hein, pour peut-être la conversion d'un tel qui est autour de la table, hein, mais sans dire un mot, sans dire un mot de morale où vous devriez faire comme ci, vous devriez faire comme ça, non. En se taisant, par contre, à l'intérieur, on a dit un grand oui. Voilà. Ça, c'est mon cadeau. Je vais demander à Jésus que vous rentriez là-dedans. Parce que ça, c'est enfin, moi, je crois beaucoup que les gens changent. Et ça se saurait, hein, si les gens changeaient par nos paroles. Même si tout ça, on est plein de bonne volonté, tout ce qu'on en est. Mais les petits ajustements des uns et des autres, hein, dans nos familles, parce que vous savez, moi aussi j'ai une famille, hein, et il y a aussi la matière à souffrir, hein, eh bien, ça se fait justement par « waouh, ça me fait mal la réflexion, hein, », mais bah, je dis oui, quoi. Voilà, dire oui pour que, hop, Jésus touche la personne. Alors, vous verrez peut-être rien le jour de Noël, mais vous verrez, vous entendrez ça, je peux vous le certifier, il y aura des changements obligatoires. Obligatoirement, Jésus s'engage, il l'a dit. Hein. Peut-être au Noël suivant, voilà, hein, c'est ça, pour passer à Noël dans la paix. Parce qu'il y en a un qui est, oh, chouette, les rencontres de fin d'année, pour rien, il y en a qui se frottent les pattes, hein, et trop content de pouvoir mettre la zizanie dans les familles en lançant le sujet sur la politique et le Covid. Voilà. Ce sont deux sujets à éviter le jour en ces fins d'année. Je rigole, mais un tout petit peu, parce que c'est la vérité. Hein. Ne vous laissez pas empoisonner. Enfin, je veux dire, c'est des vraies joies, parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué de se réunir, hein. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Eh bien, bah voilà, ces moments-là, il faut les chérir, quoi. Et vous avez la grâce de mesurer bah justement ce que c'est que la volonté de Dieu qui passe par ces petits riens. Bah, chérissez-les pour que justement vos invités repartent en disant « Ah non, quand même, elle est chrétienne, mais non, elle est quand même différente, quoi. Hein, elle ne nous parle pas de Jésus, mais elle ressemble à Jésus. » C'est le but hein, de la guerre d'honneur. Hein, c'est le but. Hein. Voilà, donc tous mes vœux, en grande union, hein, je vous confie la communauté dans nos prières réciproques. Alors, eh bien, votre devoir d'État, vous en avez obligatoirement un, la prière, voilà, et puis vous faites comme quelque chose de votre... Vous avez quand même organisé votre vie avec des activités. Il y a une activité quand même que vous faites. Donc cette fidélité aux activités vers lesquelles vous vous êtes engagé, qui peuvent changer de mois en mois ou d'année en année, eh bien, c'est votre devoir d'État. Rien que déjà la charité, hein, c'est un devoir. Donc, obligatoirement, on ne vit pas de rien, si vous voulez. Hein. Donc, j'irais même quelque part, quelqu'un qui est SDF, sans devoir d'État, saura de chercher à s'en sortir et pas de profiter de la situation. Là, ce serait de la médiocrité. Ce serait, enfin, je ne vais pas le juger, mais ça touche du péché. Et donc, un devoir, c'est aujourd'hui, déjà, de plaire à Jésus dans ce que vous allez faire. Donc, il y a obligatoirement quelque chose, enfin, il y a assez de propositions, je dirais, de voilà quoi. Hein. Il y a pas tout, vous n'aurez pas toujours le mari, à qui il faut faire la cuisine. Déjà, quand on est célibataire, bien se nourrir. Moi qui étais dans le monde, je faisais pas partie de celle moi qui aime faire la cuisine, comme je savais que j'allais pas rester dans le monde, je me suis pas engagée à acheter la batterie des casseroles et des poêles, donc j'avais une casserole et une poêle. Je faisais ma cuisine, je mangeais, on peut pas dire très bien, très équilibré, mais quand on sait qu'on va pas se faire religieuse et qu'on est installé dans le monde, déjà le devoir d'État c'est de bien se nourrir, de prendre le temps de faire sa cuisine. Alors que quand on est tout seul, on pourrait le négliger. Ça fait partie du devoir d'État.
Faire attention à sa santé.
Ben voilà, c'est pour servir le Seigneur, faire la charité, faut prendre soin de soi. Ça relève du péché contre le Créateur de négliger sa façon de vivre. Je m'en fiche, je suis toute seule, après tout, j'en ai rien à faire. Même sa tenue vestimentaire. Voilà. On peut pas aujourd'hui, on se présente n'importe comment. Je suis désolée, c'est une erreur. Pour moi, c'est une atteinte au Créateur. C'est pas qu'une atteinte à soi et au prochain, c'est une atteinte au Créateur. Pourquoi ? Parce qu'il nous a fait. Et puis il nous voit. Et puis je vous avais dit l'enseignement dernier que vous portez tous Jésus en vous. On est tous porteurs de la présence du Christ par notre baptême, mais aussi à l'Eucharistie tous les jours ou tous les dimanches. Jésus revient habiter dans votre cœur et tout le long de la semaine, vous allez devoir maintenir cette présence eucharistique par la charité, l'amour que vous porterez les uns aux autres et par la vie de prière. La manière dont on s'habille, quand on est habillé, les dames décolletées jusque-là en attrapé la bronchite, et puis, eh bien, vous heurtez la présence du Christ en vous. Vous ne prenez pas soin de Jésus en vous. Et ça, je suis désolée, c'est une atteinte au Créateur. Et moi, je vais jusque-là. Je me dis, j'aime beaucoup l'image. C'est vrai que, bon, voilà, nous, à la visitation, c'est Marie qui est enceinte. Donc, c'est sûr que pendant le temps de l'Avent et la Nativité, ça nous parle particulièrement. Mais où la vie est tellement agressée, hein, c'est cet avortement qu'on prolonge, là, le délai. Je me dis, ces femmes qui... Et nous, on est tous, quelque part, une femme ou un enceinte. Je suis désolée messieurs, mais vous êtes aussi enceinte de Dieu. Et je veux dire, comment vous portez cet enfant? Comment vous portez cette vie divine en vous? On doit le protéger contre nous-mêmes, notre orgueil, la manière dont on vit. Si on vit avec « je suis toute seule, j'en ai rien à faire », ben non. Non, je suis désolée, vous avez des devoirs. Qui sont peut-être plus exigeants, pourquoi? Parce que vous êtes toute seule. Mais si vous a mis, on revient à la case départ, Dieu l'a voulu. Et c'est sa volonté, un grand oui, et j'aime sa volonté. Attention, je n'ai pas dit que c'était facile. Tout le monde, je le dis à mes sœurs quand elles viennent frapper à ma porte et qu'on a l'entretien mensuel, j'ai toujours, chacune a ses difficultés. J'ai les miennes, la supérieure qui est devant vous, qui paraît toujours voler au-dessus de tout. Non, non, non. Elle a ses difficultés aussi. Moi aussi, je tire mon... j'ai aussi mon paquet. Tout le monde a son paquet. Même ceux qui... Oh, lui, il lui a... D'abord, il n'est pas chrétien. Tout lui réussit. J'entends ça. Non, je suis désolée. Tout le monde a quelque chose. À nos yeux, oui, tout lui paraît briller. Tout lui sourit. Tout lui réussit. Mais attention, si vous étiez au quotidien, dans le secret de son cœur, il y a de la détresse. Qu'on cache des fois par une aisance de parole. Tant mieux, il a des cordes à son arc, il arrive à le cacher. Mais il souffre quelque chose que vous ne pourriez pas souffrir. Par contre, ce que vous souffrez, lui, il ne pourrait pas. Et c'est pour ça que ça ne sert à rien. Notre fondateur dit bien, ce n'est pas la peine d'aller cultiver le jardin du voisin. Restez chez vous et cultivez le vôtre. Arrachez les mauvaises herbes chez vous. Mais la tentation, c'est toujours, alors nous qui sommes dans une vie cloîtrée, d'aller regarder, bah, chez la sœur, c'est nettement mieux. On a la tentation de la comparaison. La pente douce, hein, chez nous, c'est... Mais quelque part dans le monde, entre voisins d'immeubles ou voisines ou amis, oh bah elles, ses enfants réussissent, ils ont tous leur diplôme du premier coup, les miens, ils sont recalés, pourvu quand je la rencontre, elle ne me posera pas la question, où sont vos enfants? Parce que elle, voilà, où est-ce qu'il a trouvé du travail? Vous connaissez pas ces situations? Voilà. Oui, quelle école font-ils? Parce que voilà, si c'est des écoles qui sont cotées, on vous regarde comme ça. Ah, ben là, il faut dire, oui, c'est la volonté de Dieu qu'elle m'ait posé la question. Pourquoi? Voilà, peut-être que j'avais besoin de rester à ma juste place. Pourquoi? Pour le salut des âmes. Voilà. Attention, tout ça est dans un but du salut des âmes. Déjà, mon propre salut, ma propre perfection. Et on est collaborateur de la rédemption. Gardonneur, mais chrétien, tout simplement. Et c'est ce qui se joue le 25 décembre. C'est la rédemption. Voilà. J'ai largement dépassé l'heure. En grande union, en tout cas. On termine avec les invocations, quand même, que je termine bien. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cœur sacré de Jésus. Notre-Dame du Sacré-Cœur. Saint-Joseph. Saint-Jean. Saint-François de Sales et Sainte-Jeanne de Chantal. Saint-François d'Assise et Sainte-Marguerite Marie. Bienheureuse Marie de Jésus de l'île Martigny. Bienheureuse Maria Gabriella et ses compagnes. Sœur Marie du Sacré-Cœur Bernot. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Et bon vent!